L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion. Laissez monter votre adrénaline avec Sportify.
Tous les samedis matins, plongez au cœur du game. Découverte, interview et dernières actualités sportives. C'est dans Sportify.
Du cyclisme à la natation, en passant par le basketball et bien plus encore, ne manquez pas le rendez-vous incontournable des passionnés de sport.
Sportify, le rendez-vous des champions. Chaque samedi de 10h30 à 12h. Exclusivement sur Volume 3.
Sportify, la vibe du game avec Tina Anjongo.
Nous sommes ensemble pour faire le tour, le récapitulatif de l'actualité sportive de la semaine et parler bien sûr des projections pour le week-end et pourquoi pas pour les semaines à venir. C'est Sportify, votre hebdomadaire consacré au sport, et aujourd'hui on parlera de volleyball, de maracana, de football. La semaine a été chargée en termes d'activité sportive et nous faisons le point, le bilan tout à l'heure dans le récap. Bonjour à tous et merci de nous être fidèles et d'être avec nous tous les samedis entre 10h30 et 12h. Si vous êtes avec nous, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur 87.9 ou encore vous avez téléchargé l'application Volume 3 Cameroun disponible sur Play Store et très bientôt sur App Store. Mais vous pouvez également nous écouter via le streaming www.volume3media.com. Après le récap, nous parlerons de l'actualité sportive de la semaine qui vous a marqué. Bien sûr, vous avez la possibilité tous les vendredis de nous envoyer par message WhatsApp, même audio, au 682 83 26 60, votre pensée, votre avis sur l'actualité sportive de la semaine la plus marquante. Et bien sûr, tout à l'heure, on écoutera beaucoup d'entre vous qui ont réagi à cette question. Dans le Zoom, nous recevons Jean-Baptiste Biaé, directeur de la communication à la Fédération Camerounaise de Cyclisme, pour faire le bilan des activités sportives à la FECA Cyclisme durant cette année 2025 et parler des projections et des difficultés que rencontre cette instance, surtout en termes d'infrastructures sportives. Dans Sport Simus, nous parlerons de ces documentaires inspirés du sport. Et bien sûr, enfin, dans Un Saut Sport, nous irons à la découverte d'un sport insolite, d'un sport hors du commun. Et ce samedi, nous allons à la découverte du Bouskashi. Ce sera en dernière partie de cette émission. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de vous installer partout où vous nous écoutez ce matin. C'est Sportify qui débute.
Toute l'actualité sportive de la semaine. Le récap dans Sportify.
Cette semaine, nous l'avons ouverte avec du volleyball en parlant de l'actualité de nos équipes dames et messieurs. Le week-end dernier à Brazzaville qui remportait les finales zonales des championnats d'Afrique de volleyball dans la zone 4. L'événement organisé par la Confédération africaine de volleyball a refermé ses rideaux le week-end. Pour le bilan ce matin, nous écoutons Martin Vialinguea. Je vais y arriver, notre stagiaire Vialinguea, c'est tout de suite.
La sélection nationale de volleyball, dames et messieurs, ont réalisé un retentissant doublé lors du championnat d'Afrique de la CAF, zone 4, confirmant leur suprématie régionale. Chez les dames, les Lions indomptables ont survolé la compétition. En finale, elles ont dominé le Congo sur le score sans appel de 3-7 à 0, 26-24, 25-19 et 25-14. Solides en défense, tranchantes en attaque, les coéquipières de Laetitia Mouma Bassoko ont une fois de plus démontré toute leur maîtrise et expérience du haut niveau. Ce sarc vient confirmer porter la place du Cameroun comme puissance incontestée du volleyball féminin dans la sous-région. Les Lions indomptables ont imité leur homologue féminine chez les hommes. Dans une finale âprement disputée face au Congo, ils se sont imposés 3-7 à 1, 25-21, 23-25, 25-18 et 25-20. Une victoire construite sur la puissance au service, la cohésion collective et la lucidité dans les moments clés. Avec ce double triomphe, le Cameroun confirme son hégémonie dans la zone 4 et envoie un message fort à tout le continent. La relève est bien assurée et le volleyball camerounais continue de briller au plus haut niveau africain.
Parlons toujours de ce début de semaine où on faisait le bilan du week-end. La Guinée-Bissau refermait également une compétition. Il s'agissait de la 11e édition du Maracan masculin et de la première édition chez les femmes. Le Cameroun, malgré l'élimination chez les messieurs, a quand même réussi à briller du côté des dames. Martin Luther-Py.
Le Cameroun peut rugir de fierté au jeu du Maracan africain disputé à Bissau. Les Lions Indomptables ont écrit une page historique du sport camerounais pour la toute première édition féminine de la Maracan. Elles ont survolé la compétition avant de dominer le Bénin en finale sur le score de 3-1. Technique, solidaire et déterminée, les Camerounaises ont imposé leur jeu du début à la fin. En attaque, la redoutable Ernestine Echou, dorsale 9, a éclaboussé le tournoi de son talent, terminant meilleure buteuse avec 5 réalisations. Ce sacre vient confirmer la montée en puissance du Maracan féminin au Cameroun qui s'ouvre et inspire. Chez les hommes, le parcours s'est arrêté en quart de finale. Les Lions, pourtant séduisants en phase de groupe, ont cédé face à la vaillante équipe du Burkina Faso. Une élimination frustrante, mais porteuse d'enseignements pour la suite. Au-delà des résultats, cette 11e édition restera gravée comme celle du double sacre historique, la Côte d'Ivoire impériale chez les hommes avec un 10e titre continental et le Cameroun, première nation championne d'Afrique féminine de Maracana. À Bissau, les Lions et les Lionnes ont rappelé au continent qu'en sport comme en fierté, le Cameroun ne cesse jamais de briller.
Allons sur les parquets pour parler de basketball avec la Basketball African League qui s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre qui suscite beaucoup de débats, nouvelles formules et projections. On en parle ce matin dans Sportify.
La Basketball African League s'apprête à vivre un tournoi historique. Selon plusieurs sources proches du dossier, la NBA envisage de transformer la compétition africaine en ligue fermée, à l'image de son modèle américain. Jusqu'ici, les 12 équipes de la BAL étaient sélectionnées selon leur performance nationale et le road to ball. Mais dès 2026, la NBA souhaite passer à 12 franchises permanentes sans monter ni descendre. Objectif, stabiliser la ligue et renforcer son attractivité et séduire davantage d'investisseurs. Mais cette évolution inquiète certains acteurs du basketball africain. Une ligue fermée pourra privilégier les grandes métropoles comme Kigali, Lagos ou Le Caire et écarter les clubs locaux. Reste que cette réforme pourrait offrir plus de stabilité, de meilleurs salaires aux joueurs africains. Certains experts plaident pour un modèle hybride alliant franchise fixe et qualification nationale afin de préserver le mérite sportif. La vente des premières franchises est prévue pour fin 2025. Une chose est sûre, la balle entre dans une nouvelle ère plus ambitieuse, plus professionnelle, mais qui devra rester fidèle à sa mission, faire briller les talents africains sur la scène mondiale.
Et bien sûr, dans quelques jours, nous écouterons quelques spécialistes, analystes de la question basketball au sujet de ces nouvelles réformes. Parlons à présent d'Atéba Gauthier qui a remporté sa 3e victoire de l'UFC point moyen le week-end dernier face à l'Américain Vince. Victoire remportée en 1 minute et 41 secondes. C'était à Las Vegas. Via Lingueia nous en dit plus.
Explosion de puissance à Las Vegas. Le Camerounais Atéba Gauthier, surnommé le Silence Assassin, a encore frappé fort lors de son combat à l'UFC. Dès le premier round, Atéba imposait un rythme infernal enchaînant des coups précis et destructeurs. Résultat, un TKO foudroyant en seulement 1 minute et 41 secondes. Son adversaire, l'Américain Vince, complètement dépassé, n'a jamais trouvé la faille face à la tournade camerounaise. Le public de Las Vegas, d'abord surpris, a finalement applaudi debout la démonstration de la force du lion indomptable. Avec ce nouveau succès, Atéba signe désormais un bilan parfait de 3 victoire pour 0 défaite, toute remportée par TKO au premier round. Un début de carrière tonitruant qui confirme son statut d'étoile montante dans la catégorie poids moyen. Le Cameroun peut être fier, Atéba Gauthier continue d'écrire l'histoire du MMA mondial et porte haut les couleurs du pays sur la scène internationale.
Du football dans ce récap, cette semaine a été marquée par la rencontre Cameroun-Île-Maurice, rencontre tant attendue et c'est le stade de la Côte d'Or à Port-Louis qui a accueilli cette confrontation entre les Lions indomptables du Cameroun et les Mauriciens dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce matin pour le compte-rendu, nous sommes avec Jireh Singhepi.
y a des équipes qui jouent au football. Et puis, il y a les lions indomptables qui, eux, ne jouent jamais vraiment. Ils chassent, attendent, puis frappent. Ce mercredi, sous la pelouse du stade de la Côte d'Or à Port-Louis, le rugissement a traversé l'océan Indien. Le Cameroun s'est imposé 2-0 face à l'île Maurice, rappelant à tous que le lion peut sommeiller, mais il ne dort jamais vraiment. Pourtant, la première période a été tout, sauf féline. Les lions ont observé, hésité, comme s'ils goûtaient à l'air du combat avant de bondir.
Ouais, petit frère, les lions indomptables, les gars s'y connaissent trop. Vous connaissez jouer avec le cœur des gens. Toute une première mi-temps, personne ne marque. On ne voit même pas le jeu. Deuxième mi-temps, tac-tac. Tac-tic-tac-tic-tac.
Mais un lion blessé ne recule pas. Il se redresse. Et quand la seconde mi-temps a commencé, le Cameroun a retrouvé sa crinière de feu. Une action limpide. Muminga Male libère le Cameroun après une erreur de relance de la défense adverse.
Attention avec ce ballon qui est renvoyé derrière. Et enfin l'ouverture du score pour le Cameroun qui intervient à la 57e minute de jeu seulement. Et il a fallu donc attendre cet instant pour voir Muminga Male prise permettre au Cameroun de passer devant dans ce match.
Ce but était le rugissement qu'on attendait. Un cri de réveil et de promesse faite à la patrie. Et derrière, la chasse était lancée. Les Lions indomptables ont serré la proie mauricienne avant d'acerner le coup final, le deuxième but.
Massegok qui va aller chercher Brian Bebo. Et là, le gardien Bisley Petita. Je le disais, Brian Bebo pouvait inscrire son second but face à l'île Maurice. Et le voilà, le joueur de Manchester United, très en forme et qui vient donc permettre au Cameroun de mener sur le score de 2-0.
Les supporters de leur côté vibraient de fierté.
Le tacticien Marc Bruce met les joueurs en place. Les gars jouent nos stress, petit frère. Ils n'ont pas la pression. Papa, les gars dribblent comme les enfants. Tac, tac, tac. Ça, c'est le Real. L'adversaire, là, comme c'était le milieu que les gars étaient en train de jouer. Tac, 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 tac.
Mais au-delà du score, c'est l'esprit des lions indomptables qui refait surface, celui du combat, de la foi et de la dignité.
Ne vous amusez pas avec les millions de Camerounais. Quand vous portez notre maillot, faites attention avec le maillot, là. En bonne entente, ça.
Ce mercredi, les lions indomptables n'ont pas seulement gagné, ils ont retrouvé leur rugissement et leur fierté après leur dernière défaite face au Cap-Vert. Parce que oui, un lion peut douter, trébucher, vaciller, mais jamais, au grand jamais, il ne perd sa griffe.
Dans le même temps, le Cap-Vert concédait le match nul face à la Libye sur le score de 3-0, confortant ainsi les chances du Cameroun de se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde dans le groupe D. Une victoire du Cameroun donc au complexe Côte d'Or face à l'île Maurice, très appréciée par les observateurs du football. Et ce matin, nous vous proposons une analyse de cette rencontre.
Le Cameroun a fait respecter la logique hier soir à Saint-Pierre en s'imposant 2-0 face à l'île Maurice pour le compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Une victoire importante acquise avec sérieux, même si tout n'a pas été parfait. Yves Mossi, journaliste sportif, nous donne son analyse.
Un match qui n'avait pas assez de rythme comme on l'attendait. Il faut dire que l'équipe de l'île Maurice a joué avec un bloc très bas et ils attendaient le Cameroun. Et le Cameroun n'a pas su proposer beaucoup de phases de jeu direct, de jeu rapide et varié également. La première mi-temps était véritablement insipide. On n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On avait quelques égarements, des joueurs qui manquaient de repères. Et on avait l'impression que certains avaient peur même de se blesser parce que ils ne sont pas habitués à jouer sur du gazon synthétique. Mais à la mi-temps, le remplacement de Koudou pour l'ancrer en jeu de Bassogok aura été le moment idéal qui a changé cette partie. On peut dire bon remplacement pour Marc Brice.
L'autre fait marquant de la soirée, c'est la première apparition de Karl Etaillon sur le maillot des Lions indomptables. Le jeune attaquant a séduit par sa maturité, son calme balle au pied et son sens du déplacement. Toujours disponible, propre dans ses relances, il a montré qu'il pouvait s'imposer à ce niveau.
Mais Karl Etaillon quand même, lui, il s'est proposé. On a senti un attaquant qui avait de l'envie. Il a beaucoup pressé la défense à Vest. On a vu son repli défensif. Mais au niveau des percussions, au niveau des jeux, hein, dans le dos de la défense. On ne le couvrait pas toujours de la manière idéale. C'est souvent ce qu'on a reproché à nos milieux de terrain, de n'avoir pas ces passes clés là, ces passes qui cassent les lignes, pour pouvoir mettre l'attaquant dans les meilleures conditions idéales.
Avec ce succès, le Cameroun consolide sa deuxième place du groupe D derrière le Cap Vert et reste plus que jamais en course pour la qualification du mondial.
Les Lions indomptables qui affronteront donc l'Angola lundi prochain dans le cadre de la 10e et dernière fenêtre FIFA dans cette zone Afrique, dans le groupe D. Alors, la 47e assemblée de l'instance fêtière, on parle de la Confédération africaine de football, s'est tenue en début de semaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'une des résolutions prises lors de cette assise est la dotation financière des clubs dès le premier tour préliminaire des compétitions interclub CAF. Plus de détails.
Bonne nouvelle pour les représentants camerounais. L'Aigle Royal de la Ménois et Colombe du Sud toucheront chacune une enveloppe de 100 000 $, soit près de 56 millions de francs CFA pour leur participation au premier tour des compétitions interclub de la CAF. Cette décision a été officialisée par le président de la Confédération africaine de football, M. Motsepe Patrice, lors de la 47e Assemblée générale tenue à Kinshasa. Selon la CAF, cette dotation vise à encourager et soutenir le développement des clubs africains souvent confrontés à des difficultés financières dès le premier tour. Une initiative saluée par de nombreux observateurs du football africain qui y voient un pas concret vers une meilleure valorisation du travail des clubs sur le continent.
En attendant justement la reprise de la MTN Elite One prévue pour novembre prochain, nous avons débuté cette semaine une série de Zoom sur les clubs qui feront partie de l'aventure 2025-2026. Et en début de cette semaine, nous nous intéressions à Dynamo de Douala.
À Douala, quand le soleil tombe sur un commando, on entend encore battre le cœur d'un club mythique, la Dynamo. Fondée en 1948, au milieu des ruelles rouges du quartier populaire, la Dynamo n'est pas née d'un bureau, mais d'un souffle, celui d'une jeunesse qui voulait exister, qui voulait jouer et qui voulait dire « nous aussi, on est une équipe du peuple ». C'est là qu'est venu ce nom, Dynamo, comme une énergie qui ne s'éteint jamais. Sur les terrains poussiéreux de Bassa, les premiers maillots étaient parfois cousus à la main, les ballons rafistolés, mais la passion, elle, brillait plus fort que les projecteurs. Puis est venu le temps des grandes années, 1979, 81 et 98. Trois Coupes du Cameroun, trois explosions de joie dans la ville entière. Des noms ont marqué ces épopées. Marius Singe, guerrier du milieu de terrain, Gando Piquet, danseur des tribunes devenu légende vivante, ou encore Modeste Mbami, enfant du club, parti conquérir le monde avant de revenir dans les mémoires. Mais comme tout grand mythe, la Dynamo a connu ses ombres. Des saisons de doute, de relégation, des années passées loin des lumières. Pourtant, le peuple n'a jamais déserté. Et la saison dernière, après un départ difficile, les Bonne Badjob ont retrouvé la flamme, notamment grâce à des joueurs qui auront tout donné pour ce maillot jaune et blanc. Et parmi eux, on peut compter Cédric Minlo, infatigable milieu de terrain, ou encore Jean-Florent Batoum, ce jeune attaquant devenu international camerounais qui a fait trembler les filets, comme on rallume une légende. Aujourd'hui, à l'aube de la saison 2025-2026, la Dynamo revient sur le front, fière et affamée. Sous les projecteurs des stades du Cameroun, les chants résonneront de nouveau. Par ici, à Douala, la Dynamo n'est pas juste un club. C'est une mémoire, une fierté, une promesse. Et chaque match est un rappel. La Dynamo tombe parfois, mais elle ne s'éteint jamais.
Enfin, le week-end dernier a été mouvementé. Nous débutions la semaine avec les activités de nos Lions à l'étranger. Le week-end était donc un week-end consacré aux sorties en club de nos Lions indomptables, de Manchester à Napoli, en passant par l'AJ Auxerre. Nous faisions le bilan pour ouvrir la semaine.
Bienvenue dans le Lion Insights, votre revue hebdomadaire des Camerounais qui brillent dans les championnats du monde. Voici les performances notables à retenir. tenir ce week-end. D'abord en France, Dani Namasso et le AG Auxerre tombent 1-2 face au RC Lens. L'attaquant camerounais n'a pas pu empêcher la défaite de son club à domicile. En Europe occidentale, Brahim Mbeumo continue d'impressionner après son transfert à Manchester United en provenance de Brentford. Il a marqué de son empreinte samedi soir lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Sunderland. Un autre joueur qui a brillé, c'est Karl Etayong. Lors du 7e match de la saison, il est buteur, confirmant sa convocation chez les Lions indomptables et contribuant à une victoire sur Real Oviedo. En Italie, l'honneur revient au Napoli qui s'est imposé face à Genoa 2-1. Le Camerounais Zambo Anguissa, buteur du hauteur du 2e but de son club, sort homme du match. L'on peut constater que c'est une belle constance chez certains Lions. Adaptation rapide, efficacité et rôle grandissant dans leur club respectif. Si cette dynamique se maintient, la sélection nationale bénéficiera d'une profondeur du banc bien plus forte.
La semaine a été longue en termes d'activités sportives et comme tous les week-ends, nous avons tendu notre micro, nous vous avons tendu notre micro afin que vous partagiez avec nous ce qui aura été pour vous l'actualité la plus marquante de cette belle semaine qui s'achève. N'hésitez pas chaque fin de semaine à nous envoyer votre avis sur l'actualité sportive au 682 83 26 60 via WhatsApp. Avis bien sûr qui sera partagé ici en direct de Sportify samedi matin. Donc on va écouter l'avis, vos avis sur l'actualité sportive marquante de la semaine.
Alors l'actualité qui a marqué mon attention cette semaine est bien entendu la double confrontation des Lions indomptables, le premier match contre des Lions indomptables contre l'île Maurice et le deuxième qui aura lieu lundi contre l'Angola. Ça c'est exactement l'actualité qui a marqué mon attention cette semaine. Alors pourquoi? Parce que nous avons là le Cameroun qui est dorénavant dans des situations compliquées mais habituelles. C'est compliqué mais habituel. Nous les proches du sport, du football, nous sommes habitués à utiliser des calculatrices à des moments comme ceci. Donc c'est l'actualité qui a marqué mon attention. Le jeu n'est plus ce qu'on recherche actuellement. Nous, on veut la victoire. Ils nous ont ramené 3 points du côté de l'île Maurice. Maintenant, à Yaoundé, on va tenter de prendre encore 3 points contre l'Angola. Maintenant, tout en espérant que les autres de l'autre côté fassent des faux pas pour qu'on voie la mesure dans laquelle on peut être qualifié pour ce mondial 2026.
Bon, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est mon début avec Authentique. Donc, on a commencé les séances d'entraînement le lundi. On a fini aujourd'hui, vendredi. La première des choses d'abord, c'est la discipline de l'équipe. Les jeux sont à l'heure, les entraîneurs, le staff. Donc c'est la première chose remarquable d'abord. Parce que dans un groupe, s'il n'y a pas de discipline, on peut pas bien faire la chose. Deuxièmement, c'est la prise en main par les coachs qui est un élément important dans un groupe aussi. Avant chaque séance d'entraînement, il y a les coachs qui sont là pour la prise en main. Ça, c'est chaque jour. Ça aussi, c'est important. Après, il y a aussi... nous commençons la séance par... d'abord, on prie avant de commencer et on termine de la même façon.
Bon, à l'heure actuelle, quand même, l'actualité sportive qui nous marque, qui m'a marqué durant cette semaine, c'est le football. Les qualifications du mondial Mexique-Amérique, là. On a l'équipe nationale qui est entre la vie et la mort, comme je peux dire. Donc, on est en train de calculer, comme nous, les Camerounais, on adore bien aussi. Si le Cap-Vert fait match nul, on gagne, on prend la tête au goal à virage. Puis on a gagné dans le Cap-Vert, confrontation directe. On a plus de buts marqués, moins de buts encaissés. En fait, c'est ça l'actualité du sport.
Les Lions indomptables doivent vraiment faire preuve de leur...
Ils doivent mouiller le maillot, mon frère. Ils doivent mouiller le maillot. doivent mouiller le maillot. Nous sommes tous derrière eux. Quand ils portent le maillot, là, c'est comme, je ne sais pas, il y a un coach qui avait dit, quand tu as mis le maillot de Lyon indomptable sur toi, quand tu es au stade, tu as 30 millions de coachs, hein, parce que tout le monde va vous coacher, tu vois. Il faudrait aussi que le coach fasse son travail. Il doit nous amener une équipe vraiment compétitive. Puisque c'est vrai, contre l'île Maurice, on a éliminé une bonne équipe aussi, qui à peine, il y a des nouveaux joueurs qu'on vient d'appeler, qui doivent prendre la température de l'équipe nationale, tout ça. Donc, il faudrait maintenant que le match de lundi, il doit mettre une équipe. Quand j'ai dit une équipe solide, ça veut dire une équipe qui a déjà eu à jouer. On voit plusieurs matchs ensemble. On a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes parmi qu'on a appelés, il y a des nouveaux qu'on a appelés, qu'on doit intégrer à l'équipe nationale doucement, puisque ceux qui sont doyens maintenant ont aussi trouvé des anciens qui sont partis, qu'on a intégrés aussi doucement.
Enfin, l'actualité sportive de la semaine, c'est bien évidemment la victoire facile de Lyon face à l'île Maurice. Donc le Cameroun qui renoue avec la victoire après son faux pas face au Cap-Vert, après victoire 2-0, but marqué par Mouminga Malo et Brian Bemo. Ça permet au Lyon de continuer à espérer une probable qualification pour le mondial. Donc c'est ça l'actualité de la semaine.
L'actualité sportive marquante de la semaine pour moi n'est nul autre que la phase de qualification pour le mondial 2026, le mondial qui va se jouer au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cette semaine, la phase de qualification de la zone Afrique et de la zone Europe se joue au même moment. Donc, voilà un peu cette actualité, parce que l'avenir footballistique de l'Afrique se joue en ce moment. On connaîtra désormais ceux qui iront représenter notre valeureux continent en 2020 mondial. Voilà pourquoi cette actualité a été marquante pour moi. Et heureusement que pour le moment, je ne suis pas déçu, parce qu'on voit les cadeaux africains qui se qualifient, à l'instar du Maroc, la Tunisie, l'Algérie, qui avec brio arrache la qualification, en espérant que le miracle se produira pour nos chers Lions indomptables qui sont allés s'imposer dans leur dernier match du côté de l'île Maurice. Donc on espère que le faux pas qu'a produit le Cap-Vert du côté de la Libye se produira à nouveau lundi, pour que le Cameroun, au terme d'une victoire écrasante face à l'Angola, soit qualifié. Donc voilà pourquoi cette actualité a été marquante pour moi.
Bon, ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus football. Et ça concerne l'équipe nationale du Cameroun. J'ai regardé la première partie du match face à l'île Maurice. C'est ça, oui, à l'île Maurice. C'était tellement médiocre. C'était médiocre. Ça ne me donnait pas envie de continuer. Et moi, je me dis que si c'est comme ça qu'on espère remporter la Coupe du Monde, comme Eto'o l'a dit récemment, vraiment, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Ça ne peut pas aboutir. Nous n'arrivons pas à gagner un match à la première mi-temps, île Maurice, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe, bien sûr. Mais c'est quand même, c'est déplorable, sincèrement.
D'abord, je suis nouveau à Douala. Donc, le fait d'arriver et je couvre là, m'amuser avec les nouveaux amis en jouant le football, ça m'a beaucoup marqué. De voir que partout au Cameroun, il y a le football qui réunit beaucoup de gens. Il y a aussi la possibilité de faire les nouveaux amis à travers le football. Parce que arrivé ici là, je ne connaissais personne. La seule moyen où j'ai fait les amis, où j'ai fait les connaissances, c'est à travers le football.
On peut dire le match de Lyon contre l'île Maurice. Et j'ai apprécié ce match quand même, vu des ensembles, à cause de la victoire. Et aussi parce qu'on a une chance de se qualifier. Si le Cap-Vert perd son match ou fait un match nul, je pense que c'est ça.
Les Camerounais sont unanimes. L'actualité la plus marquante de la semaine, c'est bien sûr le match Cameroun-Île Maurice. Donc on attend le dernier match de la 10e journée, la dernière d'ailleurs, de cette fenêtre FIFA pour le groupe D, qui arrive lundi prochain. Les Lions indomptables recevront les Angolais au stade Amadou Ahidjo. Voilà, on aura aussi un regard sur le dernier match du Cap-Vert. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur volume 3. L'émission, c'est Sportify, votre hebdomadaire consacré au sport.
Toute l'actualité sportive de la semaine, le récap dans Sportify. Sportify.
Continue d'écouter Sportify via l'application Volume 3 Cameroun.
La vibe du game. Sportify.
Dans le sens du jeu, c'est-à-dire qu'on a Colombe, on a Gazelle, on a Proton.
Je peux vous rassurer qu'on peut s'attendre à des surprises. Vous savez, il y a des équipes qui, avec le ton, avec le changement de manager, réussissent à retrouver leur jeu. Et vous savez, le football a quelque chose de magique. La vérité du mois de septembre et de janvier ne sera jamais celle du mois de mars ou avril. Mm-mm. Il y a toujours une différence. Il y a des équipes qui vont se réveiller. On a par exemple la Panthère d'Undé qui avait commencé d'abord par virer son entraîneur Souleymanou, qui n'avait d'ailleurs pas fait un match sur le banc de touche, a réussi à battre au popo, mais a sombré avec des défaites. Et depuis l'arrivée de Yves Clément Roga, c'est, si j'ai bonne mémoire, 4 matchs joués, une défaite, 2 victoires et un match nul à l'extérieur. Donc vous comprenez avec moi, ce n'est qu'un exemple, parce que Yon Sport Academy, je pense que ça fait 2 journées que Yon Sport n'a plus perdu. Yon Sport est à 6 points, Yon Sport a réussi quand même à arracher des points, et des équipes qui se réveillent au fur et à mesure. Et pendant ce temps, il y a des équipes qui vont perdre des points. Gazelle a perdu contre Bambuto Football Club de Bouda à domicile. On a également des formations comme la Colombe qui a aussi essuyé sa première défaite de la saison. Donc, on peut s'attendre à tout. Et la magie avec le championnat à poule unique, c'est que ça peut se jouer jusqu'à la dernière journée. Parce qu'on n'a pas de play-off. Ça se joue jusqu'à la dernière journée. Donc, il faut s'attendre à des surprises. Il y aura sûrement des rebondissements.
Entre 10h30 et 12h, retrouvez Sportify avec Tina and Django. Et c'est seulement sur Volume 3.
C'est le moment de prendre le pouls de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs sur nos pelouses. Que se passera-t-il? Quelle est l'activité? Quelles sont les activités sportives à suivre durant ce week-end? Et bien sûr, ce programme, Les Champs, il est à suivre dans le Mixport.
L'agenda sportif du week-end, c'est dans Mixport.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mixport. Les championnats nationaux et internationaux sont en arrêt ce week-end en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Néanmoins, le football féminin sera en activité du côté de l'Albanie ce samedi où le club de FK Apollonia sera face à Poutine lorsqu'il sera à 15h. On va y retrouver Nicole Njok-Pouet, international U20, qui est de ce côté depuis quelques mois déjà. En basketball, Jeremiah Hiltz de AS Chalon sera face à Saint-Quentin sur les parquets de la Pro A lorsqu'il sera 18h. Voilà donc un week-end varié qui pourra vous faire vous intéresser au Lyon ce week-end.
Merci Martin Lutherpi. Prenons donc le pouls de l'actualité sportive à l'étranger avec notre correspondante Jasmine Ferret. Bonjour.
Bonjour à tous. Du football avec la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Malgré une première période un peu poussive, l'équipe de France s'est facilement imposée 3-0 hier soir face à l'Azerbaïdjan. Les Bleus restent en tête de leur groupe. Dans les autres rencontres, victoire de l'Allemagne à 4-0 face au Luxembourg. Même score pour le Kazakhstan face au Liechtenstein. L'Ukraine a battu l'Islande 5-3. Victoire de l'Irlande du Nord 2-0 contre la Slovaquie. Même score pour la Suisse face à la Suède. Le Kosovo et la Slovénie se sont quittés sur un nul 0-0. Même score entre la Belgique et la Macédoine du Nord. Cet après-midi, la Lettonie affronte l'Andorre à 15h. À suivre à 18h, Norvège, Israël et Hongrie, Arménie. 5 matchs sont prévus ce soir à 20h45. Estonie, Italie, Serbie, Albanie, Bulgarie, Turquie, Portugal, Irlande et Espagne-Géorgie. Du rugby aujourd'hui au programme avec la 6e journée de Top 14. Pau reçoit Bayonne cet après-midi à 14h30. 4 matchs sont prévus à 16h35. Lyon-Perpignan, Racing 92, Montpellier, Stade France-La Rochelle et Montauban-Castres. Ce soir, Clermont affronte Toulon. Coup d'envoi de la rencontre prévu à 21h. Côté tennis, le français Arthur Rinderknecht s'est qualifié hier pour les demi-finales du tournoi de Shanghai en s'imposant face au Canadien Oje Aliassim. Il sera opposé aujourd'hui au russe Daniil Medvedev. L'autre demi-finale opposera le serbe Novak Djokovic au monégasque Valentin Vachereau. Chez les femmes, les demi-finales du tournoi de Wuhan vont opposer aujourd'hui l'américaine Coco Gauff à l'italienne Jasmine Paolini et la biélorusse Arina Sabalenka à l'américaine Jessica Pegula. Du basket en Betclic Elite, Nanterre s'est imposé 91-89 hier soir face à Limoges. Ce soir, Bourg-en-Bresse affronte le Portel à 18h. À suivre, Élan-Chalon-Saint-Quentin à 18h10, Boulazac-Nancy à 18h20 et Dijon-Cholet à 18h30. Ce soir, Lyon-Villeurbanne affronte Le Mans à 20h30.
Merci Jasmine Ferret pour ce beau programme à suivre durant ce week-end. Nous poursuivons cette émission et c'était bien sûr le Mix Sport.
L'agenda sportif du week-end. Sportify.
Continue d'écouter Sportify via l'application Volume 3 Cameroun.
Zoom sur l'invité du jour.
Nous l'annoncions dans le sommaire, il est avec nous ce matin, Jean-Baptiste Biaillé. Nous allons parler des activités de la Fédération Camerounaise de Cyclisme, mais aussi et surtout de l'état du cyclisme au Cameroun, l'état de la pratique du cyclisme au Cameroun. Quand on parle d'état des lieux en termes d'accessibilité, des infrastructures et aussi d'accessibilité de la formation. Alors, bonjour Jean-Baptiste Biaillé. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience et de votre passion pour le cyclisme au Cameroun?
Bonjour à tous vos auditeurs. Mais écoutez, j'ai souvent coutume de dire que on ne peut pas être sur la fenêtre d'une maison et souvent passer dans la rue. Comme vous insistez, retenez simplement que au départ, j'étais un mordu de foot. Ceux qui m'ont suivi depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années maintenant, de pratique de ce métier, sauf que j'ai été mordu d'abord dans un premier temps par le football. J'ai fait des plateaux de radio et de télévision avec des débats je crois enlevés sur cette discipline mieux qu'une autre. Mais il y a eu à un moment donné dans ma vie, j'ai été mordu par la petite reine qui est pour ainsi dire l'un des sports les plus préférés par M. le Président de la République et par son épouse Mme Chantal Biya. Lorsque j'embrasse le cyclisme et la Fédération Camerounaise du cyclisme, c'était simplement d'abord comme reporter parce que, pour tout vous dire, je suis aujourd'hui directeur de publication d'un journal qui s'appelle Prospective Nouvelle, au-delà de tous les autres prospects. Donc je ne ferai pas part ici, mais retenez que je suis membre du Conseil national de la publicité nommé par le président de la République depuis 2014. Jusqu'à ce jour, mais également au-delà, j'ai été dans le cadre du football membre de la commission de communication de la CAN 2016, la CAN féminine, mais également de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée chez nous au Cameroun. J'étais membre de la commission communication. Par ailleurs, j'ai été à l'époque, je vous le disais tantôt, dans le cadre du football, une sorte de globe-trotteur, puisque j'ai participé à la Coupe d'Afrique, aux Coupes d'Afrique des Nations organisées sur le continent. J'ai été au Ghana, j'ai été en Angola, au Lacan, j'ai été sur plusieurs fronts, les Jeux africains, j'ai été à Alger, pour les Jeux africains d'Alger, qui se sont déroulés il y a quelques années. J'ai été au Mozambique pour les Jeux africains, j'ai été au Maroc, j'ai été en Égypte, au Sénégal, un peu partout, globe-trotteur, j'étais dans le monde, j'étais au Gabon en 2017, lorsque nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations, dans les délégations officielles, conduites par les ministres des Sports et les présidents de l'Africa Foot successifs. Bref, j'étais foot à l'époque, mais j'ai été mordu par le cyclisme et j'ai fait aujourd'hui une sorte de passion. J'y suis entré. Aujourd'hui, je suis le directeur de la communication à la Fédération Camerounaise des cyclistes, mais directeur de la communication du Grand Prix Cycliste International Chantal Biya, directeur de la communication du Tour Cycliste International du Cameroun, directeur de communication de la course internationale VTT à Bagofit, Je ne sais pas si j'ai essayé de tout dire ce que je fais comme dans le cyclisme, mais je suis également au niveau fédéral membre du bureau exécutif de la Fédération Camerounaise de cyclisme en qualité de conseiller dans le dit bureau. Voilà, je n'ai pas certainement été exhaustif, mais voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'expérience et la passion pour le cyclisme aujourd'hui. J'avoue que je suis heureux d'être au service des autres. Je me déclare souvent comme étant l'ouvrier au service du cyclisme et au service de la presse sportive de manière générale.
Chaque année, il y a de nombreuses compétitions qui permettent aux cyclistes comme ça de s'exercer à l'international, mais aussi et surtout en national au Cameroun avec le Tour cycliste international du Cameroun, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya et le Grand Prix VTT sont des compétitions phares. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur impact sur le développement du cyclisme national?
L'impact du Grand Prix cycliste international du Cameroun, Chantal Biya, du Tour cycliste international du Cameroun et de la course internationale VTT Chantal Biya à Pagofit ont un impact certain sur le développement du cyclisme national, étant entendu que pour prendre part à ces compétitions-là, ce sont des jeunes Camerounais qui pour ainsi dire, sont détectés d'abord par la direction technique nationale, mis en stage généralement par les encadres techniques, soit de SNH Vélo Club, soit de l'équipe nationale du Cameroun, et puis sont sélectionnés, d'abord présélectionnés, ensuite sélectionnés pour pouvoir participer à ces compétitions internationales. Et je crois aujourd'hui, il y a cet impact-là, étant entendu que beaucoup de coureurs de ces sélections-là prennent part aux compétitions organisées en Afrique, le Tour du Burkina Faso, le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour du Bénin parfois, nos compatriotes qui prennent part à ces compétitions ne vont pas là-bas en victime résignée. C'est le lieu pour moi et au nom de la fédération de les féliciter pour cette progression-là, étant entendu que le Cameroun est aujourd'hui, en tout cas pour 2025, vient de remporter le Tour de Côte d'Ivoire comme il y a 2 ans maintenant, et de manière consécutive que nous avons remporté le maillot jaune en Côte d'Ivoire. Et nos performances, en tout cas les performances de nos athlètes, ne sont pas les dernières en Afrique, loin s'en faut. Et Clovis Kamuzoma Bessolo, qui est l'emblématique capitaine de SNH Vélo Club, comme vous le savez très bien, est aujourd'hui le 6e meilleur coureur africain. Et bien, de ce point de vue-là, le Cameroun a son mot à dire en termes de cyclisme. Voilà, sur le plan national et sur le plan africain. Et cela impose une certaine respectabilité de la part des autres nations africaines vis-à-vis du Cameroun.
Pour en arriver là, il y a beaucoup de préalables. C'est clair qu'il y a beaucoup de travail en amont qu'il faut réaliser. Quels sont les défis que vous rencontrez pour maintenir et surtout améliorer ces compétitions?
Les défis sont nombreux pour pouvoir maintenir et améliorer nos compétitions sportives. Mais il faut d'abord dire que, en termes d'organisation de nos compétitions sportives, de l'avis des observateurs, eh bien, la Fédération Camerounaise de cyclisme, organe technique dans l'organisation, a tenu jusqu'ici le pari de cette organisation. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'organisation du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, ou même le Tour cycliste international du Cameroun, et même la course internationale VTT à Bagofit, eh bien, de l'avis des observateurs, le Cameroun, plus précisément la Fédération Camerounaise de cyclisme, tient le pari de l'organisation. Maintenant, les autres défis reste les défis sportifs. Je précise à toutes fins utiles et vous avez pu bien le voir, notamment pour l'édition 2025 du Grand Prix cycliste international Chantal-Biard, que la première dame nous a fait une fois de plus honneur, honneur à la fédération, honneur aux cyclistes camerounais en étant personnellement au boulevard du Vernet pour communier et partager des moments de détente et de sportivité avec les cyclistes venus d'Europe, d'Afrique et du Cameroun, non sans leur accorder de petites attentions toutes particulières, qui sont des attentions de la marraine, de la prestigieuse marraine et délicate épouse de M. le Président de la République. Et je crois que cela ne nous vaut pas simplement des amitiés. Et lorsque vous avez à vos côtés une première dame qui vous accompagne depuis 25 ans et qui est à vos côtés pour vous accompagner, pour vous soutenir, eh bien, nous sommes, pour ainsi dire, des privilégiés. Et merci à elle, merci à son illustre époux, Monsieur le Président de la République, premier sportif, mais premier cycliste également, qui accompagne le mouvement sportif en général, mais surtout le cyclisme en particulier. Pour pouvoir relever ces défis, nous allons devoir compter également sur les pouvoirs publics en général, mais également sur le président de la République et sur Mme Chantal-Biard, qui ne nous ont jamais fait défaut pour leur soutien indéfectible à cette discipline. Sur le plan sportif, il y a effectivement des choses à améliorer. Étant entendu que les résultats parfois ne suivent pas à tous les coups, bien que le Cameroun ait remporté plusieurs fois le maillot jaune au Tour cycliste international du Cameroun et au Grand Prix Chantal-Biard, il reste vrai que le Cameroun, pour ce qui est du Grand Prix Chantal-Biard, est toujours à la chasse du maillot jaune depuis 2017. La dernière date à laquelle le Cameroun a remporté le maillot jaune au Grand Prix cycliste international Chantal-Biard par la prémise de Clovis Camzon à Bressolo. Et donc, de ce point de vue, il y a des choses encore à faire et à parfaire pour pouvoir arriver à un niveau de compétitivité et de compétition de manière à améliorer les résultats sportifs.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur volume 3. L'émission, c'est Sportify, votre hebdomadaire consacré au sport. Nous allons nous arrêter d'abord pour Sportsimus, cette rubrique dans laquelle nous vous montrons le lien étroit et très évident qu'il y a entre le sport, le cinéma et la musique. On revient tout de suite.
Sport, cinéma, musique, c'est Sportsimus.
Le documentaire sportif est bien plus qu'un simple compte-rendu de match ou un portrait d'athlète. Il est l'art de transformer la performance physique en un récit universel de dépassement, de doute et de triomphe. En adoptant les codes du cinéma, dramatisation, montage haletant et bande de l'épique, ces œuvres capturent non seulement l'exploit, mais révèlent aussi l'âme, les sacrifices et les enjeux éthiques qui se cachent derrière la gloire. Alors, pour illustrer comment la caméra magnifique fil effort et révèle l'intimité. Nous allons explorer aujourd'hui dans Sportsimus trois documentaires incontournables, chacun abordant un thème fondamental de l'inspiration sportive. Waving Your Flag. Aujourd'hui, on débute avec du basketball, avec le récit du mythe de Last Dance. Ce documentaire est la référence moderne du genre. Il retrace la dernière saison triomphale des Chicago Bulls. Nous sommes entre 1997 et 1998, en se concentrant sur la figure emblématique de Michael Jordan. Le film dépasse le cadre du sport pour analyser le coût de la grandeur. Il met la détermination féroce de Jordan, sa psychologie de la victoire et les tensions nécessaires pour atteindre l'excellence. Il excelle dans l'utilisation d'archives inédites et d'interviews contemporaines, le tout rythmé par une bande sonore qui ancre parfaitement l'histoire dans l'atmosphère culturelle et musicale des années 90, transformant les joueurs en véritables icônes pop. The Last Dance.
heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation, all around.
Que dire de la quête de l'extrême? Free solo, alpinisme, ici on parle d'alpinisme, obsession et contrôle de la peur. Ce film oscarisé suit l'alpiniste Alex Honnold dans sa tentative de grimper sans corde ni équipement de sécurité, d'où le titre, d'où le nom Free Solo, la paroi d'El Capitan, haute de 975 mètres dans le parc national de Yosemite. Il explore ce film la différence entre courage et inconscience. Le documentaire plonge dans l'esprit de l'athlète, sa routine méticuleuse et son processus de gestion de la peur. L'exploit est plus qu'une quête de perfection mentale. L'exploit est plus une quête de perfection mentale qu'une simple prouesse physique. La mise en scène est d'une tension insoutenable. Les plans larges et majestueux de la montagne contrastent avec les gros plans intimes sur les mains et les expressions d'Alex, tandis que l'absence de musique durant les moments critiques de l'ascension amplifie le silence mortel.
Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Todos juntos.
Et terminons avec le révélateur de scandale. Ici, on parle de cyclisme, sport mondial, dopage et vérité. Le révélateur de scandale est un documentaire qui a remporté l'Oscar du meilleur film documentaire. Il commence par une expérience d'auto-dopage du réalisateur Brian Fogel pour comprendre comment les athlètes professionnels trichent. Ce qui débute comme une enquête amateur se transforme en thriller géopolitique révélant le scandale du dopage d'État en Russie, notamment pour les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014. Contrairement aux autres, l'inspiration vient ici de la quête de vérité et du courage de ceux qui dénoncent la corruption. L'ancien scientifique russe Grigory Rodchenkov devient la figure centrale, sacrifiant sa sécurité pour révéler le système. Le film passe d'un ton léger à celui d'un film d'espionnage, utilisant des codes cinématographiques, caméras cachées, fuites, témoignages secrets, pour souligner l'urgence et le danger de la situation. Le sport n'est plus la fin, mais le moyen de révéler une réalité plus sombre. Ce documentaire est votre référence incontournable sur le cyclisme à travers le prisme du dopage qui a marqué ce sport et le scandale sportif à l'échelle mondiale.
Sport, cinéma, musique, c'est Sportsimus. Zoom sur l'invité du jour.
Il est avec nous ce matin, Jean-Baptiste Biaillé. Nous allons parler des activités de la Fédération camerounaise de cyclisme, mais aussi et surtout de l'état du cyclisme au Cameroun, l'état de la pratique du cyclisme au Cameroun. Quand on parle d'état des lieux en termes d'accessibilité, des infrastructures et aussi d'accessibilité de la formation. Et puisqu'on parle d'association et d'apport, quel est l'état des lieux en matière d'infrastructure? Qu'est-ce qui est fait pour permettre aux cyclistes de s'entraîner et de concourir dans de meilleures conditions?
Les difficultés que peuvent rencontrer les cyclistes camerounais pour atteindre des niveaux internationaux, c'est d'abord la question du matériel. La plupart de nos cyclistes n'ont pas des vélos adéquats, des vélos tout à fait appropriés. Et je vous l'ai dit tantôt, un vélo au bas mot et pour celui qui est relativement moins cher, c'est entre 3 millions et 4 millions de francs CFA. Ce qui peut 4 millions de francs CFA ou 3 millions, que cela peut vous acheter peut-être de gros cylindrés par occasion. Vous le savez très bien, mais pour le cyclisme, un seul engin coûte énormément cher et ce n'est pas facile d'avoir beaucoup d'argent pour se procurer un vélo. Donc, les cyclistes camerounais ont ce déficit-là par rapport aux cyclistes européens qui sont dans les meilleurs clubs, mais qui sont mieux lotis en termes d'infrastructures ou de structures, mais surtout du matériel. Il y a non seulement vous devez avoir un bon vélo, mais vous devez avoir les accessoires appropriés, les pièces de rechange pour ce vélo-là. Et donc, pour pour atteindre les niveaux internationaux, il nous faut investir dans le matériel. Et pour investir dans le matériel, écoutez, la Fédération Camerounaise de cyclisme n'étant pas une banque, elle doit simplement nouer soit non seulement des partenariats, mais elle doit également faire appel aux mécènes ou même aux sponsors pour pouvoir l'aider à arriver. En tout cas, c'est le plaidoyer de la fédération au quotidien vis-à-vis non seulement des pouvoirs publics, parce que nous avons adressé plusieurs correspondances vis-à-vis de notre tutelle pour que la tutelle puisse nous aider à acquérir de très bons vélos afin de les mettre à la disposition de nos coureurs. Mais vous savez, jusqu'aujourd'hui, ces démarches-là se sont avérées vaines et lettres mortes pratiquement. Et nous en sommes à ce niveau-là. Peut-être qu'un jour, le plaidoyer de la fédération aura gain de cause et on pourra, pour ainsi dire, être mieux loti de ce point de vue. Mais pour l'instant, le plaidoyer continue.
Le chemin est encore long, il y a encore un certain nombre de travail à abattre. Quels sont vos objectifs personnels et aussi ceux de la fédération pour le cyclisme camerounais dans les prochaines années?
Ben, écoutez, pour ce qui est de ma personne, je n'en dirai pas grand-chose. Je vous l'ai dit dès l'entame de cette intervention que je suis un ouvrier et je voudrais qu'on retienne de moi quelqu'un qui est au service des autres. Mais maintenant, en ce qui concerne les objectifs de la Fédération camerounaise de cyclisme, j'ai la faiblesse de penser que dans les prochaines années, eh bien, la Fédération camerounaise de cyclisme a pour ambition d'atteindre de très grands objectifs, à savoir développer au maximum et promouvoir au maximum le cyclisme au Cameroun d'abord, mais partout en Afrique, pour pouvoir tutoyer également les cimes du cyclisme mondial. Je crois que ce que nous faisons aujourd'hui est déjà remarquable et appréciable de la part de nos institutions fêtières africaines et mondiales, à savoir la Confédération africaine de cyclisme. Je profite d'ailleurs pour saluer pour la première fois l'avènement au niveau de la Confédération africaine de cyclisme de la secrétaire générale, qui est notre deuxième vice-présidente à la Fédération camerounaise de cyclisme, le docteur Vedvin Djaïka, qui a été élu secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme et qui aujourd'hui, grâce à elle et grâce à l'entregent personnel de monsieur le président de la Fédération, Honoré Yossi, ont réussi à positionner le Cameroun sur l'échiquier africain. Il y a les tout premiers champions du monde qui vient d'être organisé en terre africaine pour la première fois après 125 ans d'existence de l'Union cycliste internationale, donc plus d'un siècle et un quart pour que l'Afrique organise les tout premiers championnats du monde de cyclisme. Eh bien, le Cameroun a pris part à ces compétitions-là pour la première fois et ça a été historique et cela rentre dans les annales du cyclisme camerounais et du cyclisme africain. L'on retiendra que pour les premiers championnats de cyclisme du monde organisés sur le continent noir et au Rwanda, après 125 ans d'existence de l'Union cycliste internationale, eh bien, le Cameroun a pris part à ces compétitions-là. Et de la fort belle manière également, étant entendu que nous avons présenté une dame et un garçon au Biloma, chez les dames, Obiloma Thérèse, mais également Moussa Oumarou chez les hommes, tous les deux moins de 23 ans dans leur catégorie. Ils ont compéti respectivement dans la course contre la montre, qui n'est pas encore vulgarisée chez nous au Cameroun et qui a ses spécificités par rapport aux cadors et aux grands athlètes du monde, et également à une course de ligne à laquelle ils ont participé. Eh bien, peu importe leur performance, Maurice. L'essentiel a été de participer comme le père de l'olympisme a su bien souvent le dire, Pierre de Coubertin. L'important est de participer en attendant un jour de pouvoir gagner des lauriers. Et donc, de ce point de vue, ils se sont mesurés face à l'obstacle, comme c'est souvent le dire Antoine de Saint-Exupéry, l'homme se mesure généralement quand il est face à un obstacle. Et les Jeux mondiaux, je veux dire les championnats mondiaux de cyclisme qui viennent de se tenir au Rwanda, ont été un obstacle que les Camerounais ont pu essayer. Et de ce point de vue, le Cameroun et sa fédération sont heureux d'avoir inscrit sur le livre d'or et dans le panthéon de l'histoire le cyclisme camerounais dans l'échiquier africain et mondial.
Ok, nous allons nous quitter dans quelques minutes. Déjà, merci pour votre promptitude, votre constante disponibilité. Est-ce que vous avez un mot de fin à adresser aux personnes qui nous écoutent ce matin?
Si j'avais un dernier mot, c'est celui d'abord de vous remercier très sincèrement d'avoir pensé à la Fédération Camerounaise de cyclisme et à ma modeste personne pour cet entretien qui démontre l'intérêt que vous marquez vis-à-vis des activités organisées par la Fédération Camerounaise de cyclisme. Ces derniers temps, il y a 54 fédérations au Cameroun et la Fédération Camerounaise de cyclisme est parmi les premières qui marquent les esprits par son organisation, par les personnes qui l'animent, mais également par les ambitions que cette fédération-là se donne pour vendre l'image du Cameroun, mais également pour développer, pour promouvoir la discipline au Cameroun et en Afrique. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'elle peut être considérée comme l'une des fédérations phares de notre pays. Je voudrais enfin vous remercier pour avoir pris de la peine pour pouvoir venir à notre niveau afin de recueillir ce que nous pensons de la petite reine en général et des défis qui nous interpellent pour pouvoir les relever. Nous comptons sur les médias de manière générale qui nous accompagnent sans calcul dans la promotion et le développement du cyclisme au Cameroun parce qu'il va de soi que si la Fédération camerounaise de cyclisme a les lauriers aujourd'hui connus, si la Fédération camerounaise de cyclisme est montée en puissance ces dernières années, bien écoutez, c'est grâce aux médias, toute obédience confondue. Je voudrais à travers vous féliciter les hommes et femmes des médias qui s'échinent pour pouvoir accompagner cette discipline dans notre pays. Parce qu'il va de soi que ce n'est pas simplement de l'intérêt de la fédération, mais c'est de l'intérêt du Cameroun tout entier, de l'image du Cameroun, du sport camerounais, du mouvement sportif du Cameroun. Je vous remercie de votre bienveillante attention.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Biaillé et à très bientôt.
Nous allons entrer dans la dernière partie de cette émission. Dans quelques minutes seulement, nous aurons bien sûr nous irons à la découverte de ce sport, le Bouskashi que nous vous avons annoncé en début de cette émission. C'est bien sûr dans Un Saut Sport, cette rubrique dans laquelle nous allons à la découverte d'un sport hors du commun, un sport qui vous intéresse ou alors que vous ne connaissez pas du tout et que nous faisons le plaisir de vous faire découvrir. Ce sera tout à l'heure dans Un Saut Sport. Mais d'abord, on va marquer un petit arrêt musical. On se retrouve juste derrière.
Les disciplines sportives les plus insolites, c'est dans Un Saut Sport.
Bonjour! Un Saut Sport de ce matin s'intéresse à un sport vraiment insolite et fascinant, le Bouskashi. Vous en avez déjà entendu parler? Non? Ok. Le Bouskashi, qui signifie traîner la chèvre ou agripper la chèvre, est un sport équestre traditionnel, principalement joué en Afghanistan, mais aussi dans d'autres pays d'Asie centrale comme le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. C'est l'équivalent en termes d'importance culturelle et de passion du football pour de nombreux pays. Le jeu se déroule dans deux deux équipes de cavaliers appelées les Chapandos. L'objectif principal est de s'emparer d'une carcasse de chèvre ou de veau, préalablement éviscérée, désossée et trempée dans l'eau salée pour la rendre plus résistante et de la déposer dans un cercle ou un but marqué sur le terrain. La carcasse est placée au centre du terrain. Les cavaliers se rassemblent autour, souvent au son des tambours. Dès le signal, la lutte commence. Les cavaliers montés sur les chevaux spécialement entraînés pour leur force et leur agilité se précipitent pour saisir la carcasse. Il n'y a pas de règles strictes concernant la taille des équipes ni la durée du jeu, ce qui rend le bouscachi particulièrement chaotique et intense. Le cavalier qui parvient à s'emparer de la carcasse doit la soulever, la tenir contre sa jambe à l'aide de son étrier et galoper tout en évitant les assauts des autres joueurs qui tentent de la lui arracher. L'objectif est de faire le tour d'un drapeau ou d'un point de repère, puis de revenir déposer la carcasse dans le cercle de justice, le cercle de but. Le bouscachi est extrêmement rude et physique. Les coups de fouet, utilisés uniquement sur les chevaux et non sur les adversaires, et les bousculades sont monnaie courante. Les joueurs doivent faire preuve d'une force, d'une adresse et d'un courage exceptionnel. Les chevaux sont la clé de ce sport. Ils sont entraînés pendant des années, coûtent très cher et sont entraînés comme des membres de la famille par les cavaliers. L'agilité et la capacité du cheval à se déplacer dans la mêlée sont cruciales. Historiquement, les matchs étaient souvent organisés par les camps ou les chefs de tribu. Le vainqueur et le cheval gagnent un grand prestige et reçoivent souvent des prix importants comme de l'argent ou même un chameau. C'est un véritable test de bravoure et d'honneur. Les règles peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. Dans sa forme la plus traditionnelle et la plus sauvage, il n'y a littéralement aucune règle, tandis que dans sa version plus moderne et réglementée, il y a des limites plus claires pour les équipes et les zones de but. En somme, le bouscachi est bien plus qu'un simple jeu. C'est une expression profonde de l'identité et des traditions nomades de l'Asie centrale, un spectacle de courage, d'habileté équestre et de ferveur populaire. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le bouscachi. À la semaine prochaine.
Les disciplines sportives les plus insolites, c'est dans InsoSport.
Il est temps pour nous de vous dire au revoir. C'était Sportify, votre hebdomadaire consacré au sport. Merci d'avoir été avec nous et de nous rester fidèles. Excellent week-end à vous, Sportify. La vibe du game.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Retrouve cette émission en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.